France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, quelles sont les méthodes vraiment efficaces pour maigrir pendant les vacances d'été? Ce sera peut-être votre objectif, vous délester de quelques kilos en trop. 5 Français sur 10 sont en surpoids selon la vaste enquête Obépi Roche en 2020. Avec leur série de 60 millions de consommateurs, on s'intéressera aux moyens les plus sûrs pour perdre du poids et on verra ce qui ne marche pas. Perdre du poids n'est pas si compliqué que ça, conserver sa nouvelle ligne et ne pas grossir, c'est une autre histoire, surtout après un certain âge. Alors quels sont les mécanismes de la prise de poids et de l'amaigrissement, les facteurs environnementaux, hormonaux, génétiques qui nous font grossir? Nous verrons également ce que valent ces nouveaux médicaments injectables qui font maigrir et puis surtout quelles sont les règles fondées sur la science qui permettent de ne pas reprendre de poids. Toutes vos questions sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Perdre du poids, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais personne ne le fait parce que c'est difficile de se lancer et de s'y tenir. L'idéal pour moi, c'était de ne pas cuisiner, de ne pas faire les courses et surtout de ne pas réfléchir à ce que je dois manger. J'ai juste rempli une fiche avec la liste des aliments qui me filent la gerbe et voilà.
Chez Comme J'aime Pas, on vous concocte des plats équilibrés, calibrés, avec les nutriments essentiels pour vous apporter tous les goûts que vous détestez deux fois par jour.
Ah, c'est de la cervelle et des épinards. Ah, quelle horreur.
Avec Comme J'aime Pas, on touche pas à son plat.
J'avais besoin d'une méthode sérieuse pour maigrir. C'est pour ça que j'ai choisi Comme J'aime Pas. J'ai rien bouffé depuis 3 semaines, c'est trop dégueulasse. Et résultat, j'ai perdu 22 kilos.
Vous voulez vraiment maigrir? Alors rendez-vous sur commejaimepas.gros. C'est une perte de poids garantie à 100%.
Extrait de Groland. Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Endocrinologue, diabétologue et nutritionniste. Vous êtes attaché à l'hôpital Bichat à Paris. Vous êtes expert de cette émission. Vous avez publié chez Michel Lafond « Manger l'esprit léger ». Bonjour Sophie Kwan.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef du hors-série de 60 millions de consommateurs, actuellement en kiosque, intitulé « Perdre de 3 à 30 kilos, les nouvelles solutions ». Bonjour Nicolas Da Silva.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes diététicien nutritionniste, vous êtes le créateur du compte Instagram « Why Not Change » et vous publiez chez First Edition « Manger, la fin des injonctions, la fin FAIM ». Professeur Boris Ancel, pourquoi grossit-on? Quels sont les mécanismes physiologiques qui nous font prendre quelques kilos? Racontez-nous par exemple le rôle des adipocytes, hein, ces cellules capables de stocker les graisses sous forme de triglycérides. Mais d'abord, pourquoi on grossit? Pourquoi on prend du poids?
Si vous regardez ce qui circule à droite à gauche, vous allez trouver tous les jours une nouvelle raison. Il y a à peu près, je les ai comptabilisées, 200 raisons. Psychologique, hormonale, le microbiote, la pollution, la ménopause, certains médicaments. Tout est vrai. Maintenant, ce qu'on comprend, c'est qu'à la fin des fins, qu'est-ce que c'est que la graisse? La graisse, c'est de l'énergie stockée. Et pour pouvoir stocker de l'énergie, comme n'importe quelle énergie, il faut en amener. Vous ne pouvez pas créer de l'énergie de rien. Alors la question, c'est comment on va faire pour stocker de l'énergie quand, dans son corps? Vous savez, j'ai réfléchi longtemps. Est-ce qu'on a des capteurs d'énergie solaire? Non, on ne peut pas capter l'énergie solaire. Est-ce qu'on a des éoliennes? On n'a pas d'éoliennes. Est-ce qu'on utilise, vous savez, l'eau là, hydraulique? On ne peut pas. En fait, la seule manière de capter de l'énergie, c'est par l'alimentation. Et donc, même s'il y a énormément de causes derrière la prise de poids, à la fin des fins, c'est un excès d'apport de calories par l'alimentation par rapport aux dépenses. Maintenant, d'où vient cet excès et d'où vient ce déficit de dépenses? Là, il y a 250 raisons. Pour certains, c'est psychologique. Pour certains, c'est la génétique. Pour certains, c'est hormonal, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre...
En tout cas, c'est multifactoriel.
Multifactoriel, mais on ne peut pas prendre de poids sans avoir un excès d'apport calorique.
Et quel est le rôle exact des adipocytes, ces cellules capables de stocker les graisses sous forme de triglycérides?
Alors, c'est très simple. Effectivement, cette graisse, c'est-à-dire cette énergie, elle est stockée dans des cellules qu'ils appellent les adipocytes. Et les adipocytes, ils sont faits pour rester pleins. Ce qui veut dire que quand vous les videz, c'est-à-dire que vous allez créer un déficit calorique, bah vous allez dépenser plus d'énergie que ce que vous apportez, vos adipocytes vont se vider de leur stock d'énergie. Il faut bien l'énergie pour vivre. Donc si vous n'apportez pas assez par l'alimentation, il faut utiliser les stocks. Le problème, le mécanisme physiologique, c'est que quand ces adipocytes sont vides, ils vont tout faire pour se re-remplir.
Si je vous comprends bien, professeur Ancel, les adipocytes gonflent et dégonflent comme des ballons de baudruche.
Exactement, et tout est fait pour qu'ils se regonflent. Et donc quand un adipocyte s'est vidé, il va envoyer des signaux hormonaux, des signaux psychologiques au niveau du cerveau, où on n'a plus envie de bouger trop, on a envie de manger plus, on a des compulsions, tout est fait pour re-remplir ces adipocytes de l'énergie dont ils ont été privés.
Et est-ce que ces adipocytes, ce nombre d'adipocytes, est déterminé une bonne fois pour toutes à notre naissance ?
Eh bien, il est déterminé, mais il augmente. C'est-à-dire que quand vous perdez du poids, vous allez vider vos adipocytes. Quand vous reprenez du poids, ils vont se re-remplir et ils vont se multiplier. Ouais, ouais. Ce qui veut dire que quand vous perdez du poids et que vous regrossissez, vous aggravez la situation parce que vous allez avoir plus d'adipocytes qui vont vouloir se remplir. Voilà pourquoi il faut faire attention.
Et il faut préciser que ces cellules graisseuses, ces adipocytes, peuvent augmenter jusqu'à 20 fois leur volume.
Absolument, ce qui fait qu'il n'y a pas de limite à la prise de poids. Il n'y a pas de limite y a des gens qui sont préservés par des mécanismes qui font que finalement, on va le ressentir, à un moment donné, on peut plus augmenter ses apports caloriques. Donc ça, c'est de la génétique qui va jouer. Mais il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de... On peut grossir autant que possible.
Sophie Kwan.
C'est un peu la tristesse des régimes, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire du corps qui fait que, pour les industriels qui veulent nous faire perdre, c'est une manne, puisqu'on va perdre, effectivement, mais on va reprendre à cause de cette mémoire des adipocytes.
Nicolas Da Silva.
Effectivement, ça, c'est un point très important qui a été soulevé ici, c'est que du coup, la gestion du poids, contrairement à ce qui peut être vendu depuis des dizaines d'années, c'est pas une histoire de volonté, c'est pas une histoire... Le corps n'est pas une machine que l'on peut moduler à sa guise, et donc effectivement, on peut pas simplement se dire, pour perdre du poids, je vais manger moins, je vais perdre la graisse que j'ai sur le corps, je vais en perdre autant que je veux, et en plus, ça va tenir derrière. Parce que, effectivement, notre corps a ce qu'on appelle une forme d'homéostasie, donc une volonté de rester à l'équilibre, et comme ça a été très justement dit ici, cet équilibre pour lui, c'est pas forcément celui du poids auquel le régime nous a amené en fait. Comme ça a été très bien dit, un adipocyte vidé n'a qu'une envie, c'est de se remplir, notamment par des mécanismes hormonaux et les circuits de la faim qui vont beaucoup plus s'activer. Il n'a qu'une envie, c'est de se remplir, et effectivement, on peut faire un effet yo-yo qui va augmenter le poids derrière.
Question très importante, Nicolas Da Silva, comment fonctionne la faim ?
Comment fonctionne la faim ? Alors, il y a plusieurs mécanismes pour la faim, mais si on doit le résumer ici, on va dire la chose suivante. À partir du moment où on rentre en déficit énergétique, parce que par exemple on est entre deux prises alimentaires, de par certaines cellules de notre estomac va être sécrétée une hormone qu'on appelle la gréline, et cette gréline elle va aller jusqu'au cerveau pour aller stimuler plusieurs aires du cerveau, notamment une qu'on appelle le noyau accumbens, et en gros cette partie-là du cerveau elle est responsable d'une augmentation du pourcentage de pensées dédiées à la nourriture et d'une motivation à l'idée de manger. Et plus cette aire-là elle est activée, plus la motivation à l'idée de manger elle grandit et plus notre attirance va vers le gras, le sucre, le sel, le rapidement disponible, le riche en énergie. Ça va aller dans une autre aire du cerveau qu'on appelle par exemple le striatum dorsal, qui lui est responsable des comportements automatiques. Donc c'est-à-dire qu'en gros, quand on se met à avoir faim, tout est fait dans notre cerveau pour qu'on pense à manger, qu'on ait envie de manger et qu'on le fasse sans réfléchir.
Et une question fondamentale, pourquoi mange-t-on au-delà de sa faim ?
Les raisons peuvent être multiples. Un manque précédent peut avoir lieu, par exemple, quand on travaille sur les sensations corporelles, on sait qu'on va conseiller aux patients d'aller manger régulièrement, d'éviter de passer plus de 4 à 5 heures sans manger, par exemple, parce que passer une certaine intensité de faim, l'impulsivité alimentaire qui en résulte peut amener à aller dépasser ses sensations de faim et dépasser sa satiété et son rassasiement, tout comme les troubles des conduites alimentaires peuvent le faire aussi, donc une déconnexion aux sensations corporelles en lien avec des mécanismes psychologiques psychologique, la restriction cognitive, donc c'est-à-dire en gros le fait d'avoir vécu des régimes, la privation, le manque, etc., peut amener plein de schémas mentaux et de schémas comportementaux qui vont faire qu'on va se déconnecter des sensations corporelles comme régulateur de la prise alimentaire et que c'est d'autres schémas qui vont nous amener à manger.
Quelles sont les différences, professeur Ancel, entre le surpoids et l'obésité ?
Alors, surpoids-obésité, c'est la même définition, c'est un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé. Alors, on va peut-être en parler après, mais pour dépister simplement cette situation, on utilise un indice de masse corporelle,
l'IMC.
L'IMC, le poids sur le carré de la taille. Et en fonction du niveau d'IMC, on a défini deux critères, un critère de surpoids, un critère d'obésité. En fait, c'est la même chose, c'est la même maladie, et je parle de maladie volontairement, maladie chronique, sauf que le surpoids, c'est, on va dire, simplement un peu d'excès de graisse dans le ventre qui peut nuire à la santé, ou de graisse dans le corps. Obésité, c'est beaucoup d'excès de graisse qui peut nuire à la santé. Donc c'est le même problème à des niveaux différents. Il faut bien préciser que l'IMC est un bon indicateur pour dépister, c'est-à-dire se dire « Ah, cette personne, elle a peut-être ou peut-être pas un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé ». Mais on sait aujourd'hui que c'est absolument pas suffisant pour faire le diagnostic de surpoids et d'obésité.
Mais Nicolas Da Silva, est-ce un outil pertinent quand on sait qu'on peut être sportif, très musclé et classé comme obèse selon l'index de l'indice de masse corporelle ?
Alors, ça reste pertinent. C'est comme tous les outils, ça dépend pourquoi on s'en sert. Un marteau, c'est très bien pour planter des clous. Si on essaie de visser quelque chose avec, ça va moins bien marcher. L'IMC, c'est pareil. Pour faire de la statistique en santé publique, par exemple, c'est super. Pour faire du dépistage précoce, c'est super. Quand on est dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux, qu'on a énormément de volume de patients pour pouvoir commencer à poser des chiffres, c'est super aussi. En revanche, se servir simplement de cet indice de masse corporelle pour définir si quelqu'un est en bonne ou en mauvaise santé, par exemple, là, ça ne va pas être suffisant.
C'est extrêmement important, Ali, parce que beaucoup de nos patients viennent nous voir en disant « Voilà, on m'a dit que j'étais obèse, il faut que je maigrisse ». Il faut préciser que le diagnostic, il ne se fait pas sur un indice de masse corporelle. Ça fait des années que je le rappelle. Enfin, on a un consensus international publié dans une revue scientifique le dit. L'obésité ne doit pas être définie par l'indice de masse corporelle. Donc, si je m'adresse aux auditrices, aux auditeurs, vous avez un indice de masse corporelle élevé, on ne panique pas, on n'est pas forcément malade parce qu'on a un indice de masse corporelle au-dessus des seuils que tous les magazines vous mettent en avant cette période
tous,
d'été.
Sauf donc, 60 millions de consommateurs.
Exactement, Sophie Cohen, parce que justement... Sophie Cohen, il y a une interview très intéressante dans le hors-série de 60 millions de consommateurs du professeur Karine Clément qui rappelle que l'obésité ne résulte pas d'un manque de volonté.
Ah oui,
il faut le marteler, ça.
Il faut le marteler et c'est quelque chose d'extrêmement difficile et d'extrêmement stigmatisant pour toutes les personnes qui sont en surpoids et en obésité parce que la première chose qu'on leur dit, c'est « Oh, il suffit que tu fasses du sport
oui. ».
Ben non, il ne suffit pas que tu fasses du sport. Hein, Boris Ancel l'a très bien expliqué. Il y a un certain nombre de mécanismes de résistance qui font que ce sera extrêmement difficile de perdre. Et on met automatiquement ces personnes-là en échec parce que faire du sport, ce n'est pas facile. Manger moins, ce n'est pas facile. Et on se rend compte dans les statistiques officielles que, notamment... parmi les classes de population socio-professionnelles moins favorisées, il y a un accès plus difficile à une alimentation de qualité et du coup, il y a un pourcentage d'obésité nettement plus important que chez les cadres, par exemple.
Et c'est l'enquête Obépi-Roche de 2020 qui confirme que les catégories sociales défavorisées sont les plus touchées par l'excès de poids et d'obésité. 51,1% des ouvriers présentent un excès de poids contre 45,3% des employés, 43% des professions intermédiaires et 35% des cadres. Même tendance pour l'obésité. 18% des ouvriers et des employés sont touchés contre 14,4% des professions intermédiaires et seulement 9,9% des cadres.
Et il faut savoir que la malbouffe, c'est ce qu'il y a de moins cher au supermarché. C'est-à-dire
l'alimentation les snacks, ultra transformée.
Elle est moins chère parce que il y a tous ces additifs et ces arômes qui coûtent pas cher pour l'industriel. Beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de gras, une combinaison diabolique
d'additifs.
Qui donne envie de remanger, etc. Donc quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est on se tourne vers ce type d'alimentation qui est encore plus délétère et qui active le cercle vicieux.
Nicolas Da Silva.
Oui, c'est bien vrai, on n'est pas tous égaux, face à cette problématique. On pourrait dire que l'obésité, ce serait, un petit peu trop résumé dit comme ça, mais ce serait une génétique de base influencée par un environnement plus ou moins obésogène. On n'est pas tous sensibles à ça, on n'est pas tous sensibles à ce qui a été dit très justement autour des aliments hyper palatables, donc c'est-à-dire de ce fameux combo gras, sucre, sel qui peut encourager à la surconsommation.
C'est ce qu'on appelle le point de félicité.
Alors, il y en a qui appellent ça le point de félicité, il y en a qui appellent ça les aliments hyper palatables, en anglais ils appellent ça le bliss point.
Il ouais.
y a plein de mots différents, mais on n'est pas tous sensibles à ça pareil, on n'a pas tous la même éducation autour de l'activité physique, on n'a pas tous le même accès aux aliments. D'ailleurs, il y a un débat qui se fait en ce moment autour de où se font les réductions dans les supermarchés, et on se rend compte que là où on veut réduire les prix ou là où il y a des réductions, c'est sur les aliments ultra transformés. On n'a pas tous eu le même rapport à l'activité physique, on n'a pas tous le même accès aux transports, etc., etc. Et tout ça, ça joue énormément sur un environnement plus ou moins obésogène.
Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour Ali.
Je vous déteste parce que vous avez conservé votre ligne d'adolescent.
Hein. J'ai un bon transit.
Co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, quel est le menu de votre dernière chronique ?
Alors cette année, on a parlé du retour de la danse de la chenille, on a parlé des brocantes, on a parlé de vin, on a parlé des Français et de la triche.
Et ben, dans les Français mode d'emploi, absolument. Tout au long de l'année avec Jean-Laurent Casselli.
Absolument, avec mon ami Jean-Laurent. Et bien, pour cette dernière, je vais vous parler d'un objet qui est présent dans quasiment tous les frigos de tous les Français, le yaourt. Pourquoi on consomme des yaourts ? Pourquoi les Français aiment ça particulièrement ? On en parle tout à l'heure.
France Inter.
La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf.
Grand bien vous fasse.
Tu vas te rendre malade avec tes régimes à la con.
Qu'est-ce que tu veux, moi, la ligne pâte à pouf ? C'est pas mon style.
Si j'ai pas mes 5000 calories, je suis une loque.
Ali Rébéi.
Et ce matin, on se demande quelles sont les méthodes vraiment efficaces pour maigrir durablement. Professeur Boris Ancel, je rappelle que vous êtes endocrinologue, diabétologue et nutritionniste. Vous vouliez revenir sur le fait que le surpoids, l'obésité seraient d'origine seulement génétique.
Bah, on entend certains médecins nous dire l'obésité c'est génétique et donc ça sert à rien de faire des campagnes de prévention, de donner des conseils pour mieux manger, pour mieux bouger. Alors ça me choque un peu ce genre de discours parce que quand on a une maladie qui risque de toucher 50, 60, voire 70% de la population, c'est-à-dire on voit bien que le surpoids et l'obésité augmentent et que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un Français sur deux, ben, on arrête de dire que c'est une maladie génétique et qu'on doit se préoccuper uniquement des gens qui sont touchés par cette maladie. Ça, on peut dire ça quand on a une maladie qui touche une personne sur 200, sur 500. Alors on dit, bon, on ne va pas donner des recommandations à la population si c'est pour une personne sur 200. Et là, on cible à qui on s'adresse. Mais là, on est face à un problème de santé publique qui touche, je le dis encore une fois, une personne sur deux et ça va augmenter. Donc, c'est tout à fait, c'est pas une maladie génétique, une susceptibilité génétique. On n'est pas tous égaux dans un environnement sur cette susceptibilité, nous pousse à manger plus, à bouger moins et donc à prendre du poids. Donc il faut s'intéresser à tout le monde et donner des solutions pour tout le monde.
Nicolas Da Silva, je rappelle que vous êtes diététicien nutritionniste spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires.
Oui, et effectivement, dans l'obésité, on va aussi pas mal retrouver, on sait que c'est surreprésenté dans l'obésité, alors en fonction de la littérature, on retrouve entre 35 et 65% de troubles alimentaires, notamment tous ceux qui sont liés aux hyperphagie prandiale, hyperphagie boulimique.
C'est quoi l'hyperphagie ?
L'hyperphagie, en gros, alors ça dépend laquelle, mais on va dire ce sont des prises alimentaires compulsives représentant un très grand nombre de calories, parce que les chiffres changent souvent, mais entre 1000 et 10 000, et en fonction de si c'est boulimique, limique ou prandial, ça va se faire au moment des repas ou au moment ou en dehors des moments de repas, et il n'y a pas de technique de compensation derrière, donc c'est-à-dire que c'est pas là qu'on va retrouver les vomissements, les jeûnes, l'activité physique excessive de compensation, etc., etc.
Boris Ancel.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ne savent pas qu'ils sont atteints de cela. Donc, je me permets d'insister sur ce message important de dépistage et de sensibilisation. Il y a des gens qui nous disent, moi, je mange pas beaucoup, je mange peu, je mange équilibré et je grossis. Bon, ça, c'est tout un sujet. Mais parmi ces personnes-là, il y en a qui ont effectivement une alimentation équilibrée, qui font attention et qui ont des crises. Et les crises de boulimie ou les crises d'hyperphagie, c'est une perte de contrôle alimentaire à certains moments, sans purge, sans vomissement. Il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas le nom. Donc s'il vous plaît, si ça vous arrive, ce genre d'épisode où vous perdez le contrôle, où vous avez besoin de manger pour remplir le ventre, ça s'appelle une crise de boulimie, même s'il n'y a pas de vomissement derrière. Et ça, ça ne se traite pas avec des conseils diététiques du genre « faites attention à ça » ou « mangez des tomates cerises au lieu des biscuits ».
Mais c'est un constat trouble. Qui est
Sophie
difficile.
Sophie Kouane, de 60 millions de consommateurs.
C'est un constat qui est difficile à porter sur soi-même parce qu'il y a beaucoup de honte et de culpabilité chez les personnes en surpoids et en obésité. Souvent parce que dès l'enfance, on leur a dit « ah ouais, mais toi, pourquoi est-ce que tu manges autant alors que ta sœur, elle mange moins ? Tu vois, regarde, tu devrais vraiment manger moins, mon coco. » Et ça s'insinue... Et ça crée un comportement de culpabilité. Et du coup, se dire, ben voilà, je mange, j'ai des troubles alimentaires.
Mais il faut préciser, c'est un trouble, c'est pas un manque de volonté. Et quand on a une crise, la solution, c'est pas de se dire, je vais tenir parce que je suis fort. Quelqu'un qui a une crise de migraine, une crise d'épilepsie, on lui dit pas, fais un effort, n'aie pas la migraine, n'aie pas l'épilepsie. Quelqu'un qui a une crise d'asthme, on lui dit pas, mais attention, respire bien, sois motivé. Et bien quelqu'un qui a une crise de boulimie, c'est un trouble, comme un autre, il n'y a pas plus de honte à avoir. C'est un trouble et ça se prend en charge avec des spécialistes et pas avec le dernier régime qui soit comme j'aime pas ou autre.
Vous parliez, Nicolas Da Silva, de pandrial. Pandrial, ça veut dire relatif au repas, je le précise pour les auditeurs. Nicolas Da Silva, j'aimerais qu'on s'arrête avec vous sur ces kilos émotionnels. La prise de poids qui est aussi liée à ce qu'il se passe dans nos vies. Ce poids que l'on prend quand le stress, certaines émotions désagréables comme la frustration, la colère, nous font prendre du poids de façon plus ou moins insidieuse. De quelle façon la nourriture apaise, éponge notre stress, certaines émotions désagréables?
Oui. Alors, il va falloir différencier la normalité de la pathologie. Manger est un régulateur émotionnel, notamment ce qui active les voies de la récompense, qui augmente la dopamine, etc.
Par exemple, en fin de journée, voilà, je suis fatigué, j'entre à la maison, je prends 2 carrés de chocolat noir, je ne me l'interdis pas. Ça peut être lié au stress de la journée, mais c'est pas pathologique, enfin c'est pas problématique.
Dans tous les cas, s'interdire quelque chose, peu importe le contexte, est rarement payant, que ce soit en lien avec des difficultés d'identification, d'accueil et de gestion des émotions, ou que ce soit simplement par régulateur émotionnel, à peu près peu importe le contexte, s'interdire quelque chose, ça marche rarement, ça fait 50 ans qu'on essaye de dire ça aux gens, ça marche pas. Mais oui, il va falloir différencier ce qui est de la normalité, c'est-à-dire en fait de la régulation émotionnelle par la prise alimentaire, c'est parfaitement normal, et de ce qui va commencer à être handicapant pour la vie, voire pathologique, c'est-à-dire quelqu'un qui a de très grandes difficultés à accueillir, identifier et, on va dire, gérer les émotions quand elles commencent à arriver à une certaine intensité, notamment les émotions inconfortables comme la culpabilité, la honte, la tristesse, la colère, etc., l'angoisse, etc., etc. Et qui, fait ce qu'on appelle le jargon, c'est système d'évitement expérientiel. Si on dit avec moins de jargon, c'est stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie, c'est quoi ? Inconsciente, évidemment, c'est de remplacer l'expérience émotionnelle vécue par une prise alimentaire. C'est comme pour détourner l'attention de l'expérience émotionnelle intense pour le remplacer par une élévation de la dopamine par la prise alimentaire. Et là, on n'est plus dans l'apaisement, on est dans l'anesthésie, ce qui n'est pas la même chose. On n'est pas dans une volonté de retrouver une homéostasie émotionnelle, donc c'est-à-dire, là, je suis un petit peu triste, je vais me ramener un petit peu de joie et je reviens à l'équilibre. Là, on est dans, je suis en train de vivre quelque chose qui, émotionnellement parlant, me dépasse, c'est en train de me noyer. Et j'ai trouvé une stratégie d'anesthésie, de coupure de cette expérience émotionnelle. Et là, ça peut devenir handicapant pour la vie et pathologique parce que ça peut même être très récurrent, voire quotidien pour certaines personnes.
Qu'est-ce que vous conseillez ? Qu'est-ce que vous préconisez pour sortir de cette faim émotionnelle anesthésiante ? Et c'est une faim qui se concentre sur certains types d'aliments, le chocolat, les gâteaux, le fromage, le saucisson, plutôt que les bâtonnets de carottes ou de quinoa, en règle générale.
Évidemment, parce que c'est eux qui entraînent une plus grande élévation de la dopamine, en fait. C'est eux qui activent le plus les voies de la récompense, et donc c'est eux qui sont plébiscités pour détourner notre attention de façon intense de l'expérience émotionnelle qu'on vit. Qu'est-ce que je conseille ? Et déjà, c'est pour ça que quasiment avec tous mes patients, je travaille avec des psychologues, parce que la première chose qu'on fait, c'est d'en parler à médecin psychiatre, à psychologue, pour se faire aider, et après d'aller voir des professionnels spécialisés, comme des diètes spécialisées dans ces problématiques-là, pour en gros aider le patient à reconnecter progressivement, parce que ça peut être très insécurisant, reconnecter progressivement avec ces enjeux émotionnels qu'on peut vivre, et réapprendre à se sentir en sécurité, suffisamment en sécurité avec ses émotions pour ne plus avoir ce réflexe, ce besoin impérieux de fuir cette émotion pour se sécuriser.
Professeur Boris Sancel.
Oui, je pense que c'est important de dire qu'on ne répond pas à une alimentation émotionnelle par un conseil diététique, c'est-à-dire remplacer les biscuits, le chocolat par des tomates cerises.
Non.
Ça ne marche pas.
Ça se saurait.
La première chose que tout le monde peut faire, parce que tout le monde n'est pas spécialiste de ce sujet et tout le monde n'a pas accès tout de suite à un spécialiste, la première chose qu'on peut faire, c'est travailler sur la culpabilité, lever la charge mentale, nutritionnelle, et aller vers ce que j'appelle manger l'esprit léger. Je peux vous dire que ça, cette première étape, qui est relativement facile, elle règle 50% du problème. Règle pas tout. Exemple concret, vous arrêtez de picorer des informations sur la nutrition et ce qu'il faudrait faire à droite, à gauche. À un moment donné, vous allez dans une direction unique, une direction dans laquelle vous n'essayez pas d'appliquer la dernière méthode vue par tel influenceur, coach ou spécialiste en nutrition, naturopathe qui n'est pas formé au comportement alimentaire, etc. Ou que vous le voyez, que ce soit dans un magazine féminin qui donne le dernier... Non mais je suis désolé, je dis les choses, voilà. Voilà, qui vous dit nouvelle méthode contre l'addiction au sucre, allez prendre du chrome contre l'addiction au sucre, faites telle méthode, etc. Ça augmente la charge mentale nutritionnelle. Donc il faut réduire cette charge mentale. Et je peux vous garantir que si on va dans cette direction, je ne dis pas que c'est facile parce qu'on est tellement, il y a une telle intrusion, si vous voulez, des conseils, des injonctions dans ce domaine-là. C'est tellement payant pour ceux qui le font, c'est tellement valorisant pour ceux qui le font de dire « je vais vous sortir de cette histoire » qu'on a du mal à s'en sortir. Mais si on arrive à faire cette déconnexion vis-à-vis de ces injonctions nutritionnelles, je vous répète, en 15 jours, 3 semaines, 50% du problème est réglé.
D'où l'intérêt de vos livres respectifs, hein, Boris Sancel, « Manger l'esprit léger » et vous, Nicolas Da Silva, « Manger la faim, FAIM, des injonctions portées par des professionnels de santé. » Professeur en nutrition pour vous et diététicien nutritionniste pour vous, vous ne vendez pas, Nicolas Da Silva, ni vous, Boris Sancel, la dernière méthode en vogue pour maigrir. Et c'est l'intérêt de vos livres respectifs, mais aussi de votre 60 millions de consommateurs, Sophie Kwan.
Ah oui, on s'est bien défendu de mettre le moindre régime dans ce numéro, qui a 100 pages consacrées au poids et à la santé. L'idée, c'était vraiment de prendre la problématique à 180 degrés, de voir tous les mécanismes qui poussent à prendre du poids et à le garder. Et puis, toutes les sirènes industrielles et marketing qui nous poussent à acheter rapidement un produit qu'on espère miracle, parce que Boris Sancel l'a bien expliqué, c'est complexe et long de perdre du poids et de prendre soin de soi. Et on aimerait bien appuyer sur un bouton que ça marche en 3 semaines. Et donc quand on nous dit, quand un industriel nous dit en 3 semaines vous allez perdre 3 kilos, c'est tentant.
Pourquoi maigrir au fond, Boris Sancel? Quels sont les réels bénéfices de la perte de poids volontaire, évidemment, sur notre état de santé? Parce qu'il faut le rappeler, hein, l'obésité prédispose à de nombreuses pathologies.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette décision de devoir perdre du poids, elle est individuelle. Il faut arrêter de dire à un patient « je vous encourage à perdre du poids pour aller mieux », parce que ça, c'est contre-productif. Et là, je m'adresse à tous les professionnels qui nous écoutent, qui veulent bien faire, mais on ne doit pas dire à un patient « je vous encourage à perdre du poids, problème... »
Si je vous comprends bien, Boris Sancel, on ne doit pas dire à un patient que perdre du poids va vous permettre de prévenir le diabète de type 2, d'être en meilleure santé cardiovasculaire, ça va prévenir la NASH, la fameuse maladie du foie gras, ou encore réduire le risque de certains cancers, ou augmenter vos chances de concevoir un bébé. Expliquez-moi, soyez plus précis, Boris Sancel.
J'attendais que vous me posiez cette question pour être précis. Ça me fait gagner du temps de parole. Donc, on ne dit pas « je vous motive, je vous encourage à maigrir ». En revanche, effectivement, on fait un diagnostic individuel pour savoir dans quelle situation le patient se trouve en termes de comorbidité, toutes les pathologies que vous avez mentionnées, que je ne repréciserai pas, et on interroge le patient sur son histoire dans sa relation au poids et sa relation à la nourriture. Une fois qu'on a fait ce diagnostic individuel, c'est ça qui est très important, on va avoir deux étapes. Une première étape, c'est lever cette charge mentale nutritionnelle pour que le patient aille mieux très vite. Et donc ça ne va pas faire maigrir. On va aider le patient à avoir un meilleur comportement vis-à-vis de l'activité physique, de l'alimentation et du sommeil. Les trois piliers de base. Le patient va aller mieux. Il va avoir naturellement une perte de poids de 3 à 5%. Ce qui est possible chez tout le monde dès lors qu'on modifie des choses simples, durablement et en levant, je radote, mais cette charge mentale nutritionnelle. Une fois qu'on a fait cela, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt à perdre du poids ? Et là, si le patient a des comorbidités, a des pathologies particulières, oui, on va lui proposer quelque chose. Et là, il y a différentes techniques qui sont proposées, mais qui ne seront certainement pas, monsieur, madame, soyez motivés, ayez de la volonté. On va avoir des techniques comportementales qui vont aider un peu plus. On va avoir des techniques médicamenteuses, on va avoir des techniques chirurgicales, on va avoir des techniques endoscopiques. On a aujourd'hui tout un panel de méthodes qui peuvent être utilisées, mais qui doivent être choisies au cas par cas. Et c'est pas soit je fais attention à mon alimentation, à l'activité physique, soit je fais une telle technique, c'est l'un et l'autre.
Sophie Kouam.
Oui, le problème, c'est que les médecins généralistes, qui sont la première porte d'entrée dans le contrôle de notre santé, les médecins généralistes ne sont souvent pas assez formés aux questions de l'obésité et n'ont pas forcément le temps de rentrer dans ce diagnostic-là. Et s'ils veulent orienter leurs patients vers un centre de prise en charge de l'obésité, etc., la liste d'attente est extrêmement longue et ce sont des soins qui ne sont pas évidents. Alors, c'est hyper important d'avoir cette prise en charge globale, mais elle n'est pas facile à accéder en France.
C'est pour ça qu'on forme les médecins. Moi, je dirige un diplôme universitaire où il y a 350 inscrits chaque année. On les forme à cela. Et c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé a publié, il y a un ou deux ans, des recommandations très précises pour dire voilà le profil des patients qui peuvent être suivis par un médecin généraliste et voilà le profil de patients qui doivent être suivis par des spécialistes de l'obésité, voire des centres experts de l'obésité.
Et sans vouloir être anxiogène, vous rappelez dans votre hors-série, Sophie Kouam, que l'obésité prédispose à au moins 19 pathologies, maladies cardiovasculaires, diabète, stéatose hépatique non alcoolique, troubles articulaires, apnée du sommeil, reflux gastro-œsophagien, incontinence urinaire. Donc, il est important de faire ce suivi individuel pour ensuite, prévenir certaines
pathologies. Absolument, j'ai pas dit qu'on s'en fiche de l'obésité, c'est évidemment une pathologie chronique par définition, mais la manière dont on en parle aux patients et les recommandations qui sont faites, ça doit se faire après un diagnostic précis.
Il n'a pas pris un seul gramme depuis l'adolescence. Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, les Français mode d'emploi.
Regardez seulement, regardez.
Combien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est en français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde. Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors, Jérémy, pour une fois et pour la dernière dans Combien vous fasse, vous nous faites une chronique en lien avec notre sujet, bravo.
Et oui, Ali, car je vais vous parler du yaourt, objet phare du célèbre roman de Frédéric Becbédé, sorti en 2007, 99 francs, dans lequel, souvenez-vous, le publicitaire Octave Parangot et son acolyte doivent réaliser un spot de pub pour le yaourt Starlight de la marque Madone.
Bon, alors là, tu fais la démo produit, là. Exquis fromage blanc sans matière grasse avec du calcium, des vitamines, des protéines pour être bien dans sa tête et dans son corps, il n'y a rien de meilleur.
Le yaourt est un objet et un produit intéressant car il semble très présent dans nos imaginaires et dans nos représentations. On le voit en permanence dans les spots de pub ou par rangée au supermarché. On a le sentiment que c'est un produit que l'on trouve dans le frigo de tous les Français et qu'on a parfois du mal à retrouver dans ce frigo, comme Bernard Blier dans Ça n'arrive qu'à moi.
Où t'as mis mon flambé ? Quel bordel là.
Bref, on a bien l'impression que le pot de yaourt fait partie de nos vies. Qui ne s'est d'ailleurs jamais interrogé sur le risque ou non de manger un yaourt avec une date de péremption dépassée ? Ce sont des scènes banales de la vie quotidienne. Je vais me suicider avec des yaourts périmés, avais-je d'ailleurs entendu un jour dans un épisode de la série Friends. Mais pourquoi cet objet semble tellement faire partie de nos vies et de nos imaginaires? Eh bien car nous sommes en fait, en France, de gros, gros mangeurs de yaourts. C'est ce qu'on apprend dans une enquête de l'IFOP, réalisée dans plusieurs pays et qui sort cette semaine. Écoutez ce chiffre très impressionnant. 80% des Français disent consommer au moins une fois par semaine un yaourt. Ce chiffre est fou, et encore mieux, presque la moitié, 44% disent en manger un par jour, c'est même 54% chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Alors attention, c'est pas une spécificité française malgré tout, vous serez ravis d'apprendre, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans cette émission, que 86% des Mexicains, 89% des Espagnols et 74% des Japonais consomment du yaourt au moins une fois par semaine, et près d'un Espagnol et d'un Japonais sur deux en consomment au moins une fois par jour. Ça signifie que le yaourt est un produit commun à la fois aux Français. Tout le monde en consomme, peu importe les différences d'âge, peu importe les différences de revenus et peu importe les territoires, mais également un objet commun, un produit commun avec les autres pays du globe. C'est donc un produit qui fait encore commun, ce qui est assez rare en fait dans des sociétés éclatées, justement considérées comme ayant de moins en moins d'objets partagés, y compris en matière alimentaire et en matière de consommation. D'ailleurs, les Français, ils ont des petits rituels avec leur yaourt, car ils sont très attachés à leur marque préférée. Quand on pose cette question aux gens qui consomment des yaourts, lorsque vous en achetez, est-ce que vous êtes plus sensible à la marque ou plus sensible au prix? Eh bien, on voit un léger avantage pour la marque. 48% achètent d'abord avant tout un yaourt pour sa marque, contre 41% qui disent privilégier le prix, ce qui est assez rare dans un moment post-inflation où en effet, souvent les Français ont privilégié le prix. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez réunir et parler à tous les Français, parlez-leur du yaourt et vous serez écoutés.
Mais Jérémy, pourquoi les Français consomment autant de yaourts?
Alors d'abord car ils aiment ça, tout simplement. Quand on interroge les consommateurs de yaourts, 74% disent qu'ils en consomment par goût, avec une petite préférence pour les yaourts nature. Deuxièmement, ils en consomment autant car ils en consomment aussi pour d'autres choses. 63% des consommateurs disent utiliser du yaourt pour en faire des plats ou des recettes comme des gâteaux.
Moi, j'utilise le yaourt à la grecque. Et bah, essayez, c'est formidable dans un gâteau au yaourt.
Et bah, vous êtes représentatif de beaucoup de Français, Charlie, parce qu'en effet, beaucoup utilisent le yaourt pour faire des gâteaux, et notamment le yaourt à la grecque, en effet. Mais surtout, ils en consomment, et c'est l'élément, je pense, le plus important sans doute, ils disent en consommer pour des raisons de santé. 65% des consommateurs de yaourt disent en consommer pour des raisons de santé, car si nous sommes de grands consommateurs de yaourt, c'est que nous avons, en France, un gros problème, et qui est d'ailleurs un problème assez pénible en vacances, celui des inconforts digestifs et de l'état de notre flore intestinale. C'est la dernière chronique, donc on finit en beauté. 83% des Français disent souffrir d'inconforts digestifs. Ça semble massif. Eh bien, c'est encore plus vrai chez les plus jeunes. Plus de 50% des moins de 35 ans disent souffrir régulièrement et très souvent de troubles digestifs. Donc à ce rythme-là, et même si les habitudes alimentaires changent très vite dans notre société, je vous parie que les yaourts ont de très beaux jours devant eux.
Boris Hansen, Nicolas Da Silva, sur le yaourt, vous avez peut-être des choses à ajouter.
Ça fait partie des aliments qui sont simples et qui sont intéressants à tous les niveaux, apport de protéines, de calcium, intérêt, parce qu'on aime ça.
Intérêt donc, pour le microbiote intestinal
oui,
aussi.
Oui, voilà, donc tout. Et effectivement, on peut manger un yaourt même quand la date de péremption est passée.
Oula, moi j'ai bon,
il y a zéro problème.
Psychologique, hein,
Il y a zéro problème.
Moi, dès que la date, dès que ça a basculé le lendemain de la date de péremption, c'est psychologique.
Des millions de yaourts sont jetés chaque mois en France, hein. Parce qu'on a peur.
Pour l'anecdote, sur le site internet de 60 millions de consommateurs, derrière le gros problème des Escherichia coli et les airbags Takata, le troisième article le plus lu, c'est le changement de recette d'une célèbre marque de yaourt avec plus de lait demi-écrémé que de lait écrémé. Et voilà, c'est un succès total.
Nicolas Da Silva,
c'est l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui disait « Pour qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. » Et je trouve que ça sied bien au yaourt parce que en fait, le yaourt, il représente plein de choses. Il représente de la sociabilité, il représente de la culture, il représente des intérêts nutritionnels, hein, par exemple. Hein, les 980 mg de calcium pour l'adulte, les 1200 pour les personnes âgées ou les enfants. En fait, un aliment, c'est plein de choses. Et je trouve que le yaourt remplit vachement bien cette mission et que ça a été très bien représenté ici.
Merci beaucoup, Jérémy Pelletier, pour cette toute dernière chronique, les Français mode d'emploi. Merci pour cette année de chronique. C'est vraiment très chouette de vous avoir avec Jean-Laurent Casselli.
Eh ben merci à vous, mon cher Ali. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était très agréable d'avoir bénéficié d'autant de liberté dans toutes les chroniques qu'on a faites. Je dois vraiment le saluer et le souligner. Et longue vie à vous.
Et on vous retrouve évidemment à la rentrée comme expert de notre émission.
Hein. Avec grand plaisir.
Vous allez revenir
avec
régulièrement.
Absolument.
Au nom de la Fondation Jean Jaurès, j'invite d'ailleurs à consulter le site de la Fondation Jean Jaurès. Il y a quoi comme étude en ce moment qu'on peut...
Là, on a fait une petite analyse des gauches en Europe.
Oui.
Voilà, la façon dont les gauches en Europe sont en train de bouger sur un certain nombre de sujets. Un élément intéressant, et vous pouvez toujours retrouver l'analyse du grand débat national aussi qu'on a réalisé grâce à une intelligence artificielle. On a analysé les 400 000 répondants sur le site du grand débat national. C'est à retrouver gratuitement et en ligne sur le site de la Fondation.
Allez, réveille.
J'ai encore perdu 4 kilos.
Ah, super, mets l'autre pied pour voir.
Grand bien vous fasse.
Là, tu sais, Gisèle, je l'ai dit, fais le régime Vetvatcher.
J'ai déjà fait le régime Vetvatcher.
Bah alors, t'as perdu combien?
3000 balles, je sais ce que c'est.
Sur France Inter.
Et ce matin, on se demande quelles sont les méthodes vraiment efficaces pour maigrir durablement. Professeur Boris Ancel, j'aimerais qu'on s'intéresse aux nouveaux médicaments anti-obésité comme le Wegovy, le Mounjaro. Expliquez-nous en quelques mots, on a déjà consacré une émission à ce sujet-là, vous pouvez vous y référer sur l'appli Radio France. Comment fonctionnent ces nouveaux médicaments anti-obésité que tous les médecins peuvent désormais prescrire depuis cette semaine?
C'est très simple, ce sont des médicaments pour l'instant injectables, d'autres arrivent en comprimé dans les mois ou années à venir, qui vont réduire l'appétit.
Ce sont les GLP-1.
En fait, de manière générale, c'est une famille qu'on appelle la famille des agonistes des incrétines. Les incrétines, c'est des hormones fabriquées normalement par l'intestin. On s'est rendu compte que quand on injecte des quantités plus importantes de ce qu'on fabrique de ces produits, on va réduire l'appétit. Avec un effet au niveau de l'estomac, ça ralentit la vidange gastrique, donc une sensation de plénitude de l'estomac, et puis un effet central au niveau du cerveau. Donc le mécanisme, il n'est pas très original, entre guillemets, c'est une réduction de l'appétit. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on souffre d'obésité, quand on a cette maladie qu'est l'obésité, on a un apport calorique qui est automatiquement trop important par rapport aux besoins, et c'est compliqué de le réduire avec la simple volonté. Et donc, une fois qu'on a modifié ses habitudes de vie, on n'a pas forcément perdu de poids, mais on va mieux, on se sent mieux. C'est là que ça peut être intéressant d'ajouter un traitement qui réduit l'appétit. Jusqu'à présent, on avait la chirurgie, on avait l'endoscopie, qui sont une autre technique. Maintenant, on a ces médicaments. Donc, ils réduisent l'appétit, ils ne guérissent pas l'obésité, et il faut les continuer, parce que si vous arrêtez le médicament, voilà, c'est pas une cure, on fait pas une cure de médicaments.
Précisons que ces médicaments anti-obésité comme le Wegovy, le Mounjaro, le Saxenda, ne doivent pas être utilisés pour une perte de poids à des fins esthétiques, c'est-à-dire une perte de poids qui n'a pas de lien avec des problèmes de santé liés au surpoids et à l'obésité.
Ce ne sont pas des médicaments de l'amaigrissement, ce sont des médicaments d'une maladie qui s'appelle l'obésité.
Comment manger sans se priver de façon équilibrée, ni frustration? Quels sont vos conseils autour de la table, Sophie Kouane de 60 millions de consommateurs?
Je vais laisser la parole
Nicolas
à nos éminents
diététiciens, nutritionnistes ou Boris Ancel.
Bah oui, parce que
Nicolas
c'est eux
da Silva,
les experts.
Quelques conseils?
Alors, il y a un triptyque que j'aime beaucoup, qui parlera peut-être aux auditeurs, c'est le triptyque tête, corps, cœur. En gros, imaginez qu'à chaque fois que vous êtes face à une assiette ou face à un snack, en tout cas face à une prise alimentaire, c'est un peu comme s'il y avait une réunion de travail entre trois protagonistes. La tête, le corps et le cœur. La tête, c'est, on va dire, le technocrate. C'est celui qui a toutes les idées théoriques sur comment est-ce qu'on devrait faire. Parfois, c'est des très bonnes idées, parfois, c'est pas des très bonnes idées. On verra que c'est même pas tant ça qu'est le plus important. Donc, la tête, c'est, on va dire, le support théorique. Après, on a corps. Corps, il vient nous informer. On va dire c'est un employé de terrain qui vient nous informer de la réalité de ce qui est en train de se passer là, tout de suite, maintenant. Et le corps, il va nous communiquer ça par des sensations. Il va nous donner de la fatigue, il va nous informer de faim, de satiété, d'intensité de cette faim, etc. etc., etc. Et on va avoir cœur, qui lui aussi est un employé de terrain, et qui lui va nous informer de la réalité de ce qui est en train de se passer, mais du point de vue, cette fois-ci, de l'expérience émotionnelle, hein, de l'état d'humeur dans lequel on est actuellement, des choses qui nous feraient plaisir, de là où se dirigent nos envies, etc. D'à quel point on est sécure avec avec ce qu'on est en train de vivre émotionnellement. On l'a parlé, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et en gros, pour pouvoir, on va dire, manger de tout, sans se priver, et que tout en, pourquoi pas, visant une forme d'équilibre, et ben ça serait de faire en sorte que ces trois protagonistes soient d'accord, de pas avoir un technocrate, un patron, c'est ça qui serait tyrannique, mais que tête, corps et cœur arrivent à trouver des solutions tous ensemble, arrivent à discuter, à ce qu'on ait un patron qui est diplomate et qui trouve des arrangements pour que tout le monde soit content.
Ça vous parle, Cérine Benyounès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et programmatrice de Grand Bain Vous Fait. Vous avez perdu 19 kilos en quelques mois. Visiblement, vous nous l'avez dit au bureau, sans être frustré, sans vous priver, de façon équilibrée et de façon gourmande, le tout associé à de l'activité physique.
Oui, je suis suivie, c'est important de le dire,
par un
médecin nutritionniste depuis décembre. Et donc j'ai perdu 19 kilos, ce qui est une perte de poids assez rapide, mais qui s'explique par le fait que j'étais vraiment très en surpoids et que c'était des kilos que j'avais pris il n'y a pas très longtemps, donc ils sont partis assez vite. Enfin, j'ai vraiment l'habitude de perdre du poids, de prendre du poids, parce que c'est comme ça depuis mon enfance.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé depuis décembre?
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu... Enfin, après, on a des déclics à chaque fois qu'on essaye de perdre du poids, mais j'avais eu une vraie dégradation de ma santé globale. Et je travaille à Grand Bien ou Face, donc je savais quelles étaient les solutions qui étaient à ma portée. J'ai dit, il faut que je sois suivie, et à côté de l'alimentation, il faut que je fasse du sport, il faut absolument que je bouge, parce que me mouvoir était devenu quelque chose de vraiment compliqué, voire impossible pour l'activité très intense. Et je suis contente, j'ai encore beaucoup de poids à perdre, mais je suis très contente de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Et c'est vraiment cette dynamique entre le sport 4 fois par semaine, mon suivi nutritionnel que je vois mon nutritionniste 2 fois par mois, et moi-même, mon autogestion, où j'essaie de me faire plaisir.
Vous faites plaisir, hein?
Je me fais plaisir. En fait, c'est un peu comme le tête-cœur-corps.
Les porridges à la banane que vous rapportez le matin au bureau sont très appétissants. J'ai envie de vous en piquer, d'ailleurs.
C'est délicieux. En fait, je me mets dans une dynamique du 80-20, ou 80% du temps. J'essaie d'avoir une alimentation très équilibrée en me faisant plaisir avec les porridges, banane, beurre de cacahuète, c'est très bon. Et 20% du temps, avec ma vie sociale. Je ne me prive pas de sortir, de manger du chocolat quand j'en ai envie, quand je suis en vacances, de manger une glace. J'essaie vraiment de supprimer tous les troubles que j'ai pu accumuler depuis l'enfance. J'ai toujours des comportements toxiques, mais ça diminue avec le temps et j'en suis très contente.
Merci pour votre témoignage, Cérine Benyounès. Professeur Boris Ancel.
Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tous les auditrices, auditeurs nous demandent mais comment elle a fait, quel est le bon régime, est-ce qu'il faut faire un régime intermittent, manger le soir. Alors, évidemment, nous, on répond à toutes ces questions dans notre chaîne YouTube, vous la mentionnerez dans un instant, mais ça se résume en une phrase, en fait. Ce que vous pouvez faire à vie, faites-le. Ce que vous ne pouvez pas faire à vie, surtout ne le faites pas. L'idée qu'on va faire un régime et qu'une fois qu'on aura fait un starter, un déclic, après on sera motivé pour continuer, ça c'est totalement faux. Donc, ce qu'il faut dire, c'est tant qu'on n'a pas été garanti que ce qu'on fait, on pourra le suivre à vie, c'est pas la bonne méthode. Et c'est au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, qu'on peut juger que notre méthode était vraiment efficace.
Et vous acquiescez, Nicolas Da Silva ?
Oui, j'acquiesce, parce que ça me rappelle beaucoup trop de consultations où, en fait, avec un patient, quand on décide « mais qu'est-ce qui ferait sens pour vous de commencer à faire ?» et que le patient commence à déclarer des choses, la première chose que je lui dis, c'est « prenez bien garde de ce que vous vous demandez parce que vous en avez pour les 30-40 prochaines années. »
Merci.
Donc, ça a intérêt à vous plaire.
Beaucoup, professeur Boris Ancel. « Manger l'esprit léger », c'est publié chez Michel Lafon. Et votre chaîne universitaire, PUMS, pour une meilleure santé, c'est disponible sur YouTube.
Et d'ailleurs, dans un quart d'heure, je vais mettre en ligne une émission qu'on a faite, questions-réponses sur la nutrition, précisément à 11h15. Ça sera sur la chaîne PUMS, P-U-M-S.
Merci beaucoup Sophie Kwan. Vraiment, je recommande Perdre de 3 à 30 kilos, les nouvelles solutions. C'est disponible en kiosque. Manger la fin des injonctions de Nicolas Da Silva, c'est chez First. Votre compte Instagram, c'est Why Not Change. Et merci encore Jérémy Pelletier. Demain, le plaisir de la sieste.
Grand Bien Vous Fasse, un podcast France Inter.